Olivier Minou, qui représente Lutte Ouvrière.
Sur l'actualité, et puis bon, ben, les 150 ans de la commune. Bon, aujourd'hui, c'est la même guerre de classe, effectivement, qui est menée à l'échelle du pays, mais de la planète, contre les travailleurs, contre les populations. Il y a toujours cette nécessité d'arracher ce pouvoir économique à la bourgeoisie et de prendre en main l'économie. Et qui mieux que les travailleurs peuvent le faire? Ils font tout fonctionner, en fait. Ils sont déjà en première ligne, comme on dit, hein. Même Macron, même ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui le disent, hein, les premières de ligne, mais c'est aussi les premiers qu'on méprise. C'est les premiers qui n'ont pas eu droit aux primes diverses que le gouvernement a fait semblant d'octroyer. C'est les mêmes qui sont précaires, permanence, dans les hôpitaux, les écoles, mais également dans les entrepôts, les usines. Donc c'est toute cette classe ouvrière aujourd'hui qui fait fonctionner la société et aujourd'hui qui est la dernière roue de la charrette, parce qu'il n'y en a que pour les plus riches, en fait. Et c'est de ce point de vue-là la même situation qu'en 1871, où la bourgeoisie dominait, la bourgeoisie était incapable de résoudre les problèmes essentiels pour la population. Et on le voit avec la pandémie, c'est la même situation. On a un gouvernement, on a des gouvernements, pas qu'en France, hein, même à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, qui sont incapables de répondre aux besoins des populations, incapables de mettre en place une vaccination massive, incapables de renforcer les hôpitaux, d'embaucher massivement, y compris dans les écoles. Le même pire, je veux dire, ils en suppriment actuellement, c'est en pleine pandémie. Incapable d'imposer à ces grands groupes de la pharmacie, notamment avec ce vaccin, d'imposer des vaccins. Quoi. Sanofi pour la France, pour les vaccins qui ont été trouvés ailleurs, d'imposer à ces grands groupes de fournir suffisamment de vaccins pour vacciner un maximum de personnes, de populations, parce que c'est une des solutions pour sortir de cette crise sanitaire. Et au-delà de cette crise sanitaire, c'est surtout qu'il y a une crise économique qui s'aggrave, qui était là déjà bien avant la crise sanitaire même, et qui précipite de plus en plus des centaines de milliers de travailleurs dans la misère, avec des bas salaires, dans la précarité. Donc la réalité de la commune, elle montre que les travailleurs, ils sont en capacité de s'organiser et d'exercer le pouvoir. Et c'est ça qu'il faut mettre aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est-à-dire que cette force collective, il faut qu'on la mette au service de la population, des populations, et arracher ce pouvoir économique à cette petite minorité qui s'accapare les richesses du travail, en fait. Et ça, c'est pas en changeant la tête du gouvernement, parce qu'on a eu Hollande, on a eu Sarkozy, on a Macron, puis demain un autre ou une autre, mais au final ils sont tous respectueux de l'ordre social actuel, c'est-à-dire de la propriété privée des moyens de production, et ça, ça les rend incapables de résoudre les problèmes vitaux, les problèmes essentiels de l'ensemble de la population. La précarité, le chômage, je le répète, dans les hôpitaux, puis y compris la crise climatique, parce qu'on ne résoudra pas la crise climatique sans enlever ce pouvoir économique, sans qu'il y ait une réflexion à un autre niveau et où c'est plus le profit individuel qui mène le monde et il le mène à la catastrophe.
La crise climatique, c'est grave parce que la chaleur est de plus en plus haute. Qu'est-ce qu'il en pensez?
Oui, les scientifiques ont dénoncé un moment ce réchauffement climatique qui est dû à l'industrie qui n'est pas organisée, hein, à l'industrialisation, à l'activité humaine, mais ceci dit, c'est dû aussi à une activité anarchique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, vous savez, et je peux vous citer où je travaille dans la chimie, ils sont tous développement durable, ils sont tous pour la planète, mais au final, je veux dire, ils sont surtout pour leur profit. Donc ils captent toutes les aides, tous ces plans de relance, là, tous ces milliards que les États injectent dans l'économie, ils les injectent directement dans les coffres forts de ces grands groupes, et c'est juste des effets d'annonce, parce que concrètement, je veux dire, rien n'est organisé, et c'est ça le problème de fond.
C'est l'anarchie capitaliste, quoi.
Voilà, c'est l'anarchie capitaliste. C'est un système économique qui ne jure que par le profit individuel. Et ça, en soi, c'est une situation qui aggrave la situation climatique, comme elle aggrave d'ailleurs la situation de pauvreté dans le monde, alors qu'on est en capacité de résoudre les problèmes. On a vu avec le vaccin, très vite, les chercheurs ont mis en place un vaccin. Ils ont fait le job, ces gens-là. Ils ont donné à l'humanité les moyens de s'en sortir. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est ces grands groupes de la pharmacie qui veulent pas
investir
et puis compris le secret commercial, le secret des brevets.
Ah, oui.
Tout ça, c'est un frein. C'est un frein au développement harmonieux. Et donc, c'est la même chose pour la pollution. Voilà, ces grands groupes, en même temps qu'ils nous abreuvent de discours, ils font l'inverse et ils précarisent et ils polluent. Au final, c'est eux qui décident de la gestion de cette économie. Nous, on subit. Par contre, on la fait tourner. Et ça, c'est aussi une force qu'il faudra organiser et qu'il faudra qu'ils servent à reprendre la main. Comment, je vous dis, en 1871, avec la commune, avec ces communards, ce peuple de Paris, ce peuple ouvrier, commerçant, artisan, hein, qui à un moment a exercé le pouvoir et a pris des mesures bien plus révolutionnaires que n'importe quel gouvernement aujourd'hui, sur la réquisition des logements, sur un moratoire, sur les loyers, sur l'ouverture de cantines à l'époque, sur des églises qui ont été réquisitionnées pour mettre des gamins et les éduquer, leur apprendre à lire, à écrire. Donc de ce point de vue-là, avec pas forcément beaucoup de moyens, ils ont mis en place des choses qu'aujourd'hui n'importe quel gouvernement n'est plus capable de faire, parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer à cette sacro-sainte propriété privée, ils ne veulent pas s'attaquer à ce capital, ils ne veulent pas l'égratigner, le toucher d'un cheveu. Par contre, pour s'attaquer dans la fonction publique, aux hôpitaux, aux écoles, pour nous restreindre avec des confinements à 19h, à 18h, ça, ils sont champions. Pour nous contraindre, nous, ils sont bons. Par contre, pour contraindre le capital, ils sont à genoux.
Oui,
et tous les gouvernements, la seule classe qui pourra inverser ça, c'est les travailleurs organisés. Et ça, faut que nous, on le mette dans la tête de nos camarades de travail autour de nous.
C'est très utopique quand même. Hein.
Bah, je ne sais pas si la commune de Paris, c'était utopique. C'était une réalité.
Ah, c'était une réalité.
Ah, oui.
Il y a eu un coup, là, quand on y réfléchit.
Il y en aura d'autres.
Oui. Bah oui,
il faut qu'on se prépare à ça.
Il y a des possibilités.
Les travailleurs.
Oui.
Et tout à l'heure, on a discuté vite fait des élections. Il va y avoir les régionales. Nous, dans ces régionales, on se présente. Voilà, Chantal Gomez va nous représenter au niveau de la région pour faire entendre le camp des travailleurs.
Lutte ouvrière. Voilà.
Mais pour défendre l'idée que les travailleurs, ils sont légitimes à gouverner. Et on ne compte pas sur les élections pour changer les choses. Parce qu'ils vont tous avoir un beau programme, ceux qui vont se présenter. Mais c'est les mêmes qui ont gouverné sous Sarkozy. C'est les mêmes qui aujourd'hui même gouvernent encore. Et puis, dans les régions, ils font la même chose que le gouvernement. Wauquiez, là, s'apprête à donner 25 millions, je ne sais plus comment il l'appelle, plan de relance, mais en direction des grandes sociétés. 25 millions qui va donner en cadeau. Et c'est les grands groupes industriels qui vont capter cet argent. Et au détriment de quoi ? Des lycées, des transports, au détriment de ce que la région a en gestion. Cet argent-là, c'est du vol. C'est inadmissible, c'est scandaleux.
Il n'y a pas moyen de contrôle ?
Non, une fois élus, ces gens-là, ils sont pas... Non, on ne les contrôle plus.
Vous voyez, on les contrôle,
la commune, les élus, ils avaient mis en place la révocabilité. Encore une mesure qui était révolutionnaire. Encore une mesure qui, aujourd'hui, il faut qu'on reprenne cette idée qu'un élu ne fait pas ce qu'il veut quand il veut, une fois qu'il est élu, et qu'on doit le contrôler, et que ça doit être quelqu'un de nos rangs. Mais c'est la même, de ce point de vue-là, voilà, on n'a pas forcément, on n'a rien inventé, on est des militants ouvriers, et nous, on veut perpétuer cette idée que les travailleurs, c'est à eux d'exercer le pouvoir. Aujourd'hui, il y a une dictature du capital, il y a une dictature dans cette société. Alors bien sûr, dans une démocratie où on peut encore dire les choses, peut-être de moins en moins encore, encore que la dictature, elle s'exerce dans les usines, parce que dans les usines, vous n'avez pas le droit de faire de la politique. Dans les usines,
c'est mal vu, quoi.
C'est pas que c'est mal vu, c'est interdit.
Interdit, ah bah oui.
Vous avez le droit du syndicalisme, avec ses limites, et c'est nécessaire de s'organiser, mais vous n'avez pas le droit de faire de la politique. Ce qu'on peut vous mettre dehors. Mais donc la dictature, de toute façon, elle s'exerce même là, je veux dire. Donc il y a une démocratie, mais même cette démocratie, elle a ses limites. Elle a ses limites, et ben ses limites, c'est ne pas entraver le capital, pas entraver l'exploitation en général. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et elle n'a pas changé depuis Marx, depuis 1970. Et la commune, c'est un événement où on a des leçons à tirer pour l'avenir. Et ça, il faut qu'on gagne notre camp à cette idée. Il n'y aura rien de positif pour les travailleurs dans ce monde, à Lyon, dans la région, à l'échelle du pays, mais au-delà, à l'échelle de la planète, sans une prise de conscience qu'on est légitime, nous, à exercer le pouvoir, démocratiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on défende, nous.
Et comment expliquer un peu ce désintérêt des travailleurs à de moins en moins syndiquer ? Est-ce qu'il y a trop de syndicats ? Est-ce qu'il y a trop de divisions ? Parce que ça fait la force du patronat, finalement. Ils disent, tiens, en face de nous, ils sont pas là. Syndicats patronaux, ils semblent assez soudés. Hein. Comment qu'on peut l'expliquer, ça c'est...
D'abord, il y a encore des endroits où il y a des gens qui ont conscience de la nécessité. Après, il y a le rôle que les syndicats ont peut-être joué dans l'histoire, au-delà du fait que, il y a eu des grands mouvements, il y a eu des avancées, mais je crois qu'aussi, aujourd'hui, le syndicalisme, une partie en tout cas, il collabore, c'est un exercice de collaboration. Donc, beaucoup de travailleurs, ils le voient aussi, prestige. Ils savent que c'est aussi des appareils qui accompagnent, qui proposent pas un changement de société, qui accompagnent l'exploitation, qui gomment un peu les griffes, et je dis un peu, ils gomment rien du tout au final, du patron. Donc tout ça contribue à faire qu'il y a une méfiance vis-à-vis des travailleurs. Et il y a aussi un autre problème, je veux dire, ça fait 40 ans moi que je me suis ouvert aux idées, enfin je dis 40 ans, peut-être un peu moins, très jeune, j'ai regardé, je me suis intéressé, le mouvement de Vaquet. La gauche, qu'est-ce qu'elle propose? Les gauches, je dirais même. Qu'est-ce qu'elle propose? De bien voter et on fera le reste. Et ces gens-là, ces partis qui représentent une partie des travailleurs, de la classe ouvrière, des classes populaires, ils ont aussi failli devant le capital. Ils sont aussi couchés. Et ça contribue à la démoralisation, au fait qu'on ne croit plus en notre classe sociale pour changer les choses. Les militants, après 81, on leur a dit « Faites rien, faites pas grève, vous allez voir, ça va changer. » Et y compris une partie des dirigeants syndicaux, on dit ça, hein, sans parler des chefs de parti réformistes. Donc, faut prendre le contre-pied de ça. Non, je veux dire, la gauche au gouvernement, de toute façon, comme elle ne va pas s'attaquer au capital, elle sera dans l'incapacité de résoudre nos problèmes. Seuls les travailleurs pourront le faire, organiser. Voilà, personne ne le fera à notre place. Et nous, à Lutte ouvrière, c'est ce qu'on défend, cette idée que les travailleurs, il faut qu'ils s'organisent. Il manque un parti ouvrier aujourd'hui, un parti des travailleurs, qui défende cette perspective, comme l'a défendu à l'époque de Marx, y compris pendant la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris, elle arrive dans une période où toutes ces idées, elles foisonnent, et puis il y a des conclusions qui s'imposent à l'époque, hein, sur l'État, c'est quoi le rôle de l'État, est-ce qu'on peut changer l'État? Ben nous, on pense que l'État, faut pas le changer, il faut mettre notre État, un État ouvrier, un État des travailleurs, et il faut détruire cet État bourgeois. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, personne ou très peu de militants défendent cette perspective. Eh ben, faut remettre cette perspective dans nos têtes, et dans la tête de nos camarades de boulot. Parce que aujourd'hui, les gens, vous dites, les travailleurs, ils se désintéressent, ils sont pas syndiqués. Mais c'est pas que ça le problème. Mais ça discute politique. Les gens, ils regardent, ils s'informent. Bon, sauf qu'effectivement, je veux dire, aujourd'hui, ils rencontrent très peu de militants ouvriers qui défendent ces perspectives. Ouais, des syndicalistes qui vont les enfermer dans des âneries de négociations, de dialogue social. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a peut-être trop. Mais des syndicalistes un peu révolutionnaires, des militants politiques, ben, c'est ça qu'il faut, avec une perspective de renverser cet ordre social.
Le problème aussi, c'est qu'il y a des militants syndicaux qui risquent de se faire foutre dehors, comme on dit. Le capitalisme, il est fort, il arrive toujours à trouver la faille, le système. Bon, mais quand ces syndicalistes, enfin, qu'on militait, se trouvent dehors, c'est quand même, ça pose un problème quand même. Il faut vivre derrière.
Oui, bien sûr, la répression patronale, elle existe, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu IKEA, là, le procès.
Ah oui.
Oui, on a l'exemple que les patrons, ils font des enquêtes, ils utilisent y compris les services de la police.
Chantage, enfin,
voilà, c'est vrai que c'est une réalité. Mais je veux dire, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, la répression patronale. Bon, moi, je travaille dans une usine. Bon, vous allez dire, il y a aussi des générations de militants qui ont construit des choses, un rapport de force. Bon, je fais de la politique, je fais aussi du syndicalisme, mais je défends mes idées là où je suis. Après, j'apparais pas politiquement parce que je suis aussi un militant syndical, mais je suis avant tout un militant politique. Bien sûr qu'il y a de la répression, mais on peut aussi s'entourer. Et quand vous dites les patrons, ils sont forts. Ils sont forts parce qu'on est faible. Ils sont pas forts, les patrons. Ils sont forts parce qu'on est désorganisé. Je veux dire, on est plus forts qu'eux, objectivement. On est plus nombreux. Ils ont besoin de nous. On n'a pas besoin d'eux. Donc, moi, c'est vrai que les patrons, aujourd'hui, le rapport de force, de manière générale, il est de leur côté. Mais il faut comprendre pourquoi. Justement, ce passé avec la gauche qui nous a trahis, ces gauches qui ont gouverné, puis qui nous refont la même chose, là, hein, pour 2022, qui vont nous raconter les mêmes salades. Bon, ben, ces partis de gauche, oui, ils ont contribué aussi à rendre les patrons plus forts, à les rendre... parce qu'ils les ont pas combattus. Ils ont pas combattu le capital. Bon, ben, moi, je crois que quand il y a des grèves, les patrons, ils résistent pas à des grèves où on est soudés. Bien sûr, ils vont nous diviser. Bien sûr, ils vont pas se laisser faire. C'est aussi une des leçons de la Commune de Paris. Alors là, c'était un État derrière, mais derrière, il y avait la bourgeoisie. Mais c'est aussi une des leçons où il fallait s'armer, il fallait se défendre. La Commune l'a en partie fait, mais c'était la situation de l'époque avec ses limites. Mais aujourd'hui, c'est poser le problème, effectivement, le jour où il y a des mouvements profonds, c'est de se défendre. C'est que les travailleurs, ils apprennent aussi à s'organiser, des services d'ordre, pour rendre les coups. Donc c'est une bagarre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand vous dites que les patrons sont forts, ouais, ils sont forts parce qu'ils ont le pouvoir. Mais, je veux dire, objectivement, la force, elle est de notre côté. Elle est du côté des travailleurs. travailleurs. Elle est du côté des millions de gens qui font tourner cette économie. La femme de ménage, du postier...
L'homme par l'homme, quoi.
Oui, mais ça repose que sur ça, sur une exploitation. Et ils nous divisent. Ils nous divisent par des tas de biais. Parce qu'on est précaire, intérimaire, parce qu'on a un CDI, parce qu'on est dans une boîte sous-traitante, parce que aussi on n'a pas les bons papiers, parce qu'on est telle couleur, parce que telle religion. Les patrons, ils font que ça, essayer de nous diviser. Et le mouvement ouvrier, il a toujours répondu à ça. Il a toujours trouvé des solutions, qu'on s'organise ensemble. Parce que ce qui manque, nous, aujourd'hui, c'est justement c'est d'être organisé.
Alors, par exemple, pour la commune, donc les 150 ans de la commune de Paris, est-ce qu'il y a des...
Dans notre presse, on fait régulièrement, justement,
oui, parce
on a
justement,
fait un édito.
Vois, le journal,
on va faire, je pense, pendant quelques semaines, des articles sur la commune. On a eu un cercle Léon Trotsky qui était sur le sujet. Parce que, bon, nous, la commune, ce qu'on en retire, c'est peut-être pas les mêmes choses que les partis réformistes ou autres. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui est une réalité, c'est que pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs de Paris, le petit peuple de Paris, comme on l'appelait, mais c'est les travailleurs de Paris en général, eh ben ils ont exercé le pouvoir pendant un mois et ils étaient capables. Et ils ont été capables. Et ils ont pris des mesures bien plus révolutionnaires qu'aujourd'hui, bien plus avancées. Et ça montre que, bon, on nous raconte qu'on ne pourrait pas gouverner, qu'on ne sait pas. Ben, bien sûr qu'on sait. Bien sûr que tous les jours au boulot, les salariés, les travailleurs, dans les hôpitaux, dans les usines, dans les entrepôts, de partout, on pallie aux carences des gouvernements, aux carences de nos élus dans les municipalités, aux carences de nos patrons. Quand il manque du monde, qu'on rappelle des gens sur leur repos, les gens y répondent présents. Donc tous les jours, on pallie aux carences de cette économie. Donc on a tout à gagner en prendre le contrôle. Ce ne serait pas un plus gros sacrifice, pas un plus gros effort. Au contraire, parce que nous, on connaît les besoins qu'il faut dans les usines, dans les ateliers. Demandez aux infirmières combien il leur faudrait de personnel. Et puis on formerait, on serait en capacité de former rapidement. Non, déjà on pallie les carences de cette économie. Les travailleurs en permanence, on pallie l'incurie de nos gouvernements et même de nos patrons. Eux, regardez Sanofi en pleine pandémie. Bon, ils ne trouvent pas le vaccin, mais encore que. Mais en plus, ils suppriment 400 postes de chercheurs et ils vont toucher les aides de l'État.
C'est dingue, ça.
Mais c'est pas dingue, c'est le capitalisme.
C'est dingue.
C'est dingue pour des gens comme nous, normaux.
ils suppriment 400
postes de chercheurs. 1000 au total et 400 postes de chercheurs. Et ils ont touché des aides de l'État. Là. Macron est venu à Marcy-l'Étoile, c'était 200 pognon, millions. Ouais. Et là, dans la pandémie, tous ces grands groupes-là, ils ont touché les aides de l'État. Et ils ont touché les milliards de l'État. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Bon, un certain nombre ont trouvé le vaccin grâce au travail de chercheurs, grâce au travail de techniciens, quand même. C'est ça la réalité. Grâce aux échanges. Et puis aujourd'hui, de toute façon, les États, ils ont beau pleurer, ils font ce qu'ils veulent. Ils livrent ceux qui veulent et puis ils vendent à ceux qui veulent et les États ils se couchent, c'est ça la réalité et c'est pas que Macron, de toute façon il est d'accord avec ça au final, hein. Mais ce système économique c'est après moi le déluge et les vaccins c'est un bon exemple actuellement sur justement une économie qui est incapable alors qu'on a les moyens, on a des milliards au-dessus de la tête qui avec la spéculation avec ce que les États déversent et puis on n'est pas capable en un an de créer des postes d'infirmières, d'aides-soignantes, de renforcer l'hôpital, c'est de l'incurie, c'est d'irresponsabilité, y compris, c'est criminel. Et de ce point de vue-là, ça démontre que nous sommes les seuls, les travailleurs, à nous être en première ligne, à gérer, à régler les problèmes au quotidien, malgré ce gros handicap du capital sur notre tête.
Si vous avez quelques dates ou quelques informations à nous donner sur le plan pratique.
Il y a un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure sur l'extrême droite, parce qu'on a parlé, il y a aussi avec cette crise économique qui s'aggrave, la montée des idées réactionnaires de manière générale. Je crois que là, il y a la plume noire. Merci. Qui a été attaqué par des nervis d'extrême droite.
Déjà la plume noire
C'est une librairie un peu anarchiste.
Voilà, anarchiste, oui, libertaire.
Rue Burgot, non
pas Rue Burgot. Libertaire communiste. Bon, nous apportons en tout cas toute notre solidarité aux militants de l'Union communiste libertaire. Ils sont gestionnaires justement de la plume noire. En tout cas, cette attaque vient après plusieurs autres contre des locaux. Oui, vous l'avez rappelé, les locaux des militants communistes.
Nous aussi.
Et vous aussi. Donc, en fait, c'est tout ça, c'est renforcé par les campagnes réactionnaires, hein, compris qui sont menées au sommet de l'État. Hein. Un Darmanin, il n'est pas en reste pour alimenter le moulin de ces groupes fascisants, quand même, hein, de ces nervis, hein, qui aujourd'hui sont peut-être la base d'un, les futurs cadres d'un parti nazi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la crise économique qui met en avant ces gens-là, qui leur donne du crédit. Donc, et la politique du gouvernement les renforce malgré leur discours. Enfin, oui, ils ont dissous ce groupuscule d'extrême droite. Donc, de plus en plus, ils s'en prennent physiquement à leurs adversaires, aux militants en général qui ne leur plaisent pas. Quoi. Bon, nous, Lutourière, on participera à la manifestation de protestation organisée le samedi 3 avril à 14h. Alors, c'est bien au terreau, effectivement, à Lyon.
Donc, elle part des terreaux, là.
Voilà, avec de nouveaux
partis. Le rassemblement est place des terreaux, et ensuite.
Moi, je serai là, je travaillerai du matin, donc je ne serai pas forcément bien frais, mais je serai là.
Oui.
Je serai présent, voilà.
D'accord. Eh bien. Ah, c'est régional. Eh bien, on rappelle encore votre dernier communiqué, si vous avez quelque chose à nous dire.
Bon, en tout cas, nous, on sera présents dans ces élections régionales, en tout cas pour dire que, voilà, justement. Pas avec un programme ficelé comme tous auront et n'appliqueront pas, parce que de toute façon, ce qui s'appliquera, c'est le remboursement de la dette, c'est les obligations vis-à-vis des banques, et que on fera les poches encore des travailleurs pour payer rubis sur ongle la dette. Hein. On va encore s'attaquer aux hôpitaux, aux transports collectifs comme à la SNCF, qui est un peu du domaine de la région. Donc ces élections, nous, on défendra l'idée que les travailleurs, le camp des travailleurs, va falloir qu'ils se fassent entendre, va falloir justement qu'ils s'organisent et qu'ils comptent pas sur des élus quels qu'ils soient pour changer leur sort. Parce que on s'est trop fait berner depuis des années par l'idée qu'il suffisait de bien voter et que ça allait changer les choses. Non, ce qui changera les choses, c'est quand les travailleurs s'organiseront. Et je le répète encore, je veux dire, on fait tout fonctionner, donc on a une force potentielle. Encore faut-il l'organiser et puis cibler le vrai ennemi. Et le vrai ennemi, c'est la bourgeoisie. Et tous les gouvernements, comme les conseils régionaux, eux, leur réalité, c'est des pompes à poignons pour ces grands groupes. Et je vous parlais des 25 millions, les crédits impôts recherche, cadeau aussi des pôles de compétitivité. Donc la région, elle arrose ces grands groupes. Et moi, je fais partie d'un grand groupe de chimie, Solvay entre autres, qui, de ce point de vue-là, touche aussi des aides de l'État. Donc, et qu'ils n'en ont pas besoin et qui filent 300-400 millions aux actionnaires régulièrement, tous les ans. C'est ça la réalité de l'économie. L'économie, elle est riche à milliards. Elle est riche de notre travail à nous tous. À un moment, va falloir qu'on se pose la question du pouvoir réel sur l'économie. Et ça, c'est une lutte, et c'est une lutte que nous devrons mener. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Hein. Et les élections, c'est au moins l'occasion d'exprimer cette idée. Et si on envoie des élus communistes, c'est au moins ça qu'ils défendront. Ils dénonceront, mais pas pour dire on va faire mieux que les autres. Parce que les autres, de toute façon, leur raison d'être, c'est de donner du pognon à ces grands groupes. Hein. Et de tirer dans les hôpitaux, réduire les économie, à la SNCF, pour les transports, dans les lycées, la région, je crois que c'est un de ses pôles de compétences, les lycées, dans les lycées, c'est la précarité, il y a un rapport, je crois, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui montrait que, heureusement que, il y a toutes ces personnes autour des professeurs, et puis qui sont précaires, qui sont maltraités, en fait, comme d'ailleurs l'est aussi les professeurs, de manière générale, de plus en plus, parce que, je veux dire, c'est pas le problème, le capital, lui, dans cette crise économique qui s'aggrave, sa préoccupation, c'est de tirer du jus, de tirer du profit. Et dans cette guerre qui se font entre eux, parce qu'ils se mènent la guerre entre eux, mais ils nous mènent la guerre contre nous pour maintenir leur profit.
Oui,
pour,
sur tous les terrains.
Mais au boulot, je vois, on a un groupe, même malgré la pandémie, ils ont fait du pognon. Ils vont filer du pognon aux actionnaires et ils suppriment encore des emplois. Ils suppriment des emplois dans la sous-traitance, ils suppriment des emplois de partout.
De toute façon, maintenant, quand on veut faire des économies, on supprime du personnel. C'est comme si c'était pas important d'avoir des gens qui travaillent.
C'est un signe aussi qu'on envoie au milieu financier, à tous ceux qui ont ces capitaux, toute cette bourgeoisie qui a ce pouvoir économique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'alternative. Tant qu'on ne s'attaque pas à cette bourgeoisie, à ce capital, ce parasitisme, on ne s'en sortira pas. Et nous, c'est une perspective qu'on met en avant, qu'on a toujours mis en avant et qu'il faut remettre en avant. Le réformisme, il nous a amené dans une impasse. Le réformisme, la gauche réformiste, elle nous a amené dans une impasse. Et aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette ornière et il faut qu'on remette dans la tête des travailleurs. Et vous verrez que s'il y avait plus de militants qui défendaient cette idée qu'on est les plus forts, les travailleurs, ils regarderaient bien sûr beaucoup plus vers nous. Parce qu'il faut leur redonner confiance dans notre capacité à imposer des choses au patron. Alors ça commence par y compris des petites luttes locales, hein, puis les mener jusqu'au bout. Mais c'est aussi pour prendre conscience qu'au-delà de ces petites luttes, eh ben, on est légitime à exercer le pouvoir, nous, les travailleurs. Et on ferait bien mieux qu'eux. Mais eux, ce n'est pas des conneries qu'ils font. Eux, ils nous amènent consciemment dans le mur. Eux, ils défendent leur intérêt. Il faut qu'on défende le mur.
Eh bien, on remercie notre deuxième invité.
On remercie donc M. Olivier Minou d'être venu, si j'ose dire, parmi nous.
Voilà. Merci à vous.